Salut à toi qui nous écoutes sur Radio Syllab ou alors en podcast et sois bienvenue dans notre bande de potes queer. Je suis Cédric, il est exactement 19h01 et ce soir autour de la table, pour nous faire le tour des séries queer à voir ou à revoir, nous avons Elios. Hello Elios.
Salut.
Pour nous parler de mobilité et de masculinité au travers du nouveau chapitre de Masculinomètre, nous avons avec nous Félix. Hello Félix. Oui, tu es loin depuis la régie.
Hello.
Hello Félix. Et notre expert en playlist queer est aussi avec nous ce soir. Hello Phileas.
Salut.
Nous sommes le jeudi 4 mai, il est 19h01, oui toujours, et à défaut de prendre le pouvoir,
les queers prennent l'antenne.
Vous écoutez Queer Me Out.
Bon, on a tout. Félix, est-ce que tu as le plaid? Super. Cédric, t'as pris de quoi manger?
Moi, j'ai pris des chips.
Ah, trop bien. Phileas, t'as préparé les boissons?
Oui.
Vous êtes tous bien installés?
Oh, ouais. Bah oui, plutôt, oui.
Bon, bah trop bien. C'est parti pour une petite soirée série. Ça va être trop bien. On regarde quoi, du coup? Bon, et on va pas parcourir le catalogue Netflix pendant 2 heures. J'ai une petite liste de séries queer à vous proposer. Est-ce que ça vous va?
Oh oui.
Oui.
Ouais. Bon, alors premièrement, un classique. C'est sucré et on a besoin de sucre en ce moment. Alors je vous propose Heartstopper. Je refuse de croire que vous n'en avez jamais entendu parler. Heartstopper, c'est une adaptation des livres écrits par Alice Oseman, une autrice queer puisqu'elle est non-binaire et arrowace, et ses livres sont eux-mêmes adaptés du webcomic qu'elle a écrit. Vous le retrouverez sur Webtoon par exemple. Il y a de la bonne représentation bisexuelle, gay, lesbienne, arrowace et trans. La série est présente sur Netflix. Un petit résumé? Bah c'est parti. On va suivre Charlie, un petit mec gay au lycée qui va tomber amoureux de Nick, qui, pour son pote Tao, est, je cite, « le mec le plus hétéro ». Bon, et il s'avère que Nick est pas si hétéro que ça finalement. Une petite série toute mimi où les thèmes abordés seront l'homosexualité, la bisexualité. Il y a un peu de sel dans le sucre, hein, parce qu'on abordera le harcèlement et le fait d'être dans le placard, le questionnement de soi, etc.
J'adore, je connais déjà et c'est vraiment génial. Ça me dérange pas de le revoir.
Ah ouais, t'as déjà vu du coup. Bon, sinon j'ai quelque chose d'autre. Ça s'appelle Young Royals. La série a été produite par Lisa Ambjorn. Dans cette série qui mélange royauté et précarité, on raconte l'histoire de Willem, un jeune prince héritier suédois, et Simon, un garçon issu d'une famille avec des difficultés financières. Simon intègre un institut prestigieux du nom d'Ilerska, qui est un internat de luxe où les petits gens richissent. Il sera accueilli par son cousin Auguste, le gars bien popu, bien riche. On parle donc d'homophobie, de placard et surtout de classisme. Ouais, parce qu'un prince héritier qui est amoureux d'un garçon qui est plutôt précaire, ça passe pas trop.
Ça a l'air trop bien, t'as d'autres choses? Je partirais bien moi sur quelque chose d'un peu éducatif.
Mais carrément. Bah écoute, j'ai Sex Education. La série a plutôt fait parler d'elle, c'est vraiment sympa. Ici, la représentation est cool parce qu'on a des personnages gays, lesbiennes, bisexuels ou pansexuels parce que ça n'a pas été fixé pour le personnage. Dans cette série, bien portée sur, vous l'aurez deviné, l'éducation sexuelle, on sera surtout du point de vue d'Otis, un garçon un peu perdu sur sa sexualité mais qui a une mère sexologue un peu trop invasive là-dessus, ce qui amène à des moments super drôles. Il est meilleur ami avec un mec gay qui s'appelle Eric et ce mec est à mourir de rire. En bref, c'est une série où on pourra évoquer des sujets très différents sur le questionnement de sa sexualité, l'amour, les différences. Ah, et bien sûr, elle est aussi sur Netflix.
Il n'y avait pas une adaptation d'une série des années 90, Heart quelque chose?
Ah si, totalement. Tu parles sûrement de Heartbreak High. effectivement, cette série a d'abord réalisé en 1994 et suit des adolescents au lycée. Dans cette version-là, les thèmes abordés sont l'amour, la drogue, la religion ou encore la vie en tant que personne sans abri. Mais dans cette version de 2022, Heartbreak High diffère un peu. Nouveau personnage, queerness as fuck, la représentation dans cette série est super. Lesbienne, asexualité, non-binarité d'une personne amable, bisexualité. Et il y a aussi une très très bonne représentation sur l'autisme et le TDAH avec une actrice concernée, Chloé Hayden. On parlera d'Améry, meilleure amie de Harper, qui verront leur amitié brisée. Je vous laisse découvrir pourquoi. Améry devient alors amie avec les marginaux du lycée, Darren et Queenie. Bon, pour Améry qui avait en tête de devenir giga populaire, elle va devoir changer ses plans. C'est sympa, c'est mignon, les thèmes abordés sont cool, et comme je le disais, la représentation est bonne, parole de concernée. On la retrouve sur Netflix si vous voulez.
Perso, ça me tente carrément. Le choix est difficile, t'as quoi d'autre ?
Eh ben, j'ai I am not okay with this. La série est réalisée par Jonathan Entwistle. On suit Sydney, une fille qui a malheureusement perdu son père. Son comportement change complètement. Elle se renferme, elle est agressive, a des sauts d'humeur et ne se contrôle pas vraiment. Elle va tomber amoureuse de Dina, sa meilleure amie qui est en couple avec un mec qui est complètement absurde. Une série avec des moments de surnaturel qui rappellent carrément Carrie au bal du diable. Sydney doit apprendre à contrôler ses pouvoirs et ses émotions. La série montre, avec du surnaturel, ce qu'il peut se passer dans la tête d'un adolescent en pleine réflexion sur lui. Si vous avez kiffé la bande de losers dans le film Ça, vous aimerez I Am Not Okay With This. Et d'ailleurs, les acteurs de Sydney et de son voisin Stanley ont joué dans ce film, un bon mélange entre plusieurs séries décalées.
Ah, ça m'a l'air super sympa ça aussi, le choix se corse. Il t'en reste une petite dernière ?
Ouais, je l'ai réservée pour la fin parce que c'est ma préférée. Il s'agit de Scam. Scam, c'est une adaptation de la série du même nom, créée en Norvège. D'ailleurs, Scam, en norvégien, ça veut dire honte. La série est présente sur YouTube, sur France TV Slash ou sur Canal Plus et est réalisée par David Oureg. Énormément de sujets différents vont être abordés. On parlera d'homosexualité avec le placard et tout le pack de la découverte de soi dans la saison 3 et d'un couple lesbien dans la saison 6. Mais on a aussi par exemple un personnage ouvertement trans joué par un acteur concerné du nom de Soan Pag. Il est acteur et chanteur et je ne peux que vous recommander son titre d'Orient qui parle justement de transidentité. Mais je laisse Phileas vous en parler un peu plus tard. D'ailleurs, la plupart des rôles sont joués par des concernés. Si on a parlé de sucre avec Heartstopper au début, je préfère prévenir que Scam comporte beaucoup de contenu sensible. On abordera des sujets tels que les agressions sexuelles, l'islamophobie, le sida, le handicap soudain, le déni de grossesse ou encore les problèmes de famille. Cette série fait énormément réfléchir sur bien des thèmes. Dans une première partie des saisons, on suit le crew, un groupe de filles, et le gang, un groupe de gars. Ils sont en seconde et on les suit jusqu'à la terminale pour passer à de nouveaux personnages en seconde avec un nouveau groupe, la MIF. Les personnages sont super attachants et please ne vous fiez pas aux deux premières saisons très très cis-hétéro, continuez parce que ça vaut vraiment le coup. Et d'ailleurs, la saison 11 est en train de sortir tout doucement. Bon, eh bien, j'ai fait le tour de ma liste. Vous en pensez quoi ? On regarde quoi ce soir ?
Bah, pff, dur de choisir. Et si on demandait plutôt l'avis aux éditorices ?
Mais super idée, Cédric ! Retrouvez sur Instagram des petites stories que vous votiez votre série préférée parmi les cités.
@queermeout. Merci Elios pour cette super sélection de séries. Bon, je t'avoue qu'en ce moment, je regarde Downton Abbey avec méga passion, mais j'ai adoré Sex Education. Alors j'ai hâte de découvrir les autres que tu as cités. D'ailleurs, en parlant de découverte, après notre expert série, je me tourne vers notre expert musical, Phileas.
Ce soir, j'aimerais vous présenter exclusivement des artistes transgenres. Nous commençons avec le duo de Flash et Kara McKenzie qui ont fait une superbe collaboration. Kara McKenzie est une musicienne, productrice et ingénieure du son. Et Flash est une artiste travaillant de manière indépendante qui aspire à devenir une pop star non binaire comme elle le clame haut et fort dans l'un de ses TikTok. Dead Name, que nous écouterons juste après, est une collaboration entre ces deux artistes. Flash ayant déjà réalisé une première version de cette chanson, parlant de la question du Dead Name, comme l'indique le titre de la chanson. Le mot anglais Dead Name, qui se traduit par prénom mort ou morinon parfois en français, est le prénom qu'une personne trans ne va plus utiliser, souvent son prénom de naissance, pour prendre un nouveau prénom, Soit dit en passant, on a souvent des idées de prénoms bien sympas, je trouve, mais je m'égare. Flash avait donc réalisé une première version de cette chanson, écrite du point de vue d'une personne trans assignée femme à la naissance, et cite ainsi le potentiel d'Emname perçu comme traditionnellement féminin, de par sa propre expérience. Elle a donc fait appel à Kara McKenzie pour créer une seconde version, cette fois-ci avec la poire coupée en deux, une partie dédiée au deadname de prénoms perçus comme féminin et une partie dédiée au deadname de prénoms traditionnellement désignés comme masculin, pour faire écho au vécu de Kara McKenzie. Et ce mélange donne un combo qui déchire. The old me is dead, someone write a fucking eulogy. Insecurities. Before you ruin me, the new me is great. Yeah, I'm doing all the shit you like. Hey, now you're double tapping on my face. Like, I know you're always stalking me, watching me, flying the wall, you're hunting me. And then I see you at the show, tell everybody how you love me. You miss the crazy how much I change. You say my dead name out loud. I'm the fucking Emily Jade, Emma Rose or Kate Penelope.
I've changed. You say my dead name out loud. I'm not fucking Anthony James, Danny, Ryan, Jake, or Henry. Dave, I'm a legend, I'm your majesty. The boy you knew is Anthony James, Danny, Ryan, Jake, or Henry. Dave, I'm not fucking.
Wow! Eh bien, ça va être un nouveau titre dans ma playlist de l'été. Merci, Phileas. Ce soir, la personne dont je vais vous faire un portrait a aussi un dead name, mais si des lèvres l'ont susurré, il y a longtemps que cette personne ne brille plus que par son nouveau nom. Aujourd'hui, je vais vous parler de Marie-France, une artiste hors du commun qui a su allier imitation et originalité depuis le début de sa carrière. Sa vie est une ode à l'accomplissement de soi et à la séduction. C'est à Oran que Marie-France voit le jour. Très tôt, elle découvre qu'elle ne vit pas dans le corps qu'elle souhaiterait avoir. À l'école, elle joue à être Brigitte Bardot et Martine Carol, des actrices françaises, mais ce n'est pas du goût de ses camarades qui la rejettent et la mettent à l'écart. À l'adolescence, ce malaise dysphorique et l'isolement la poussent à attenter à sa vie. Heureusement, on la retrouve à temps et échappe de peu à la mort. À la suite de cet incident, sa famille l'envoie chez ses cousins en France, en région parisienne, pour changer d'air. Elle, qui avait tant rêvé la France, n'est pas déçue. À 14 ans, la voici fuyant la compagnie familiale pour prendre le train et se retrouver à Saint-Germain-des-Prés. La découverte de la capitale marque un tournant dans sa vie. Lorsque la guerre d'Algérie éclate, sa famille emménage à Paris. À 16 ans, elle travaille dans un salon de coiffure le jour et se rend en boîte de nuit le soir venu. Elle se sent bien à Paris.
Paris était la ville où je pouvais me réaliser.
Ouais.
Et voilà, il y avait des gens qui me ressemblaient, qui avaient un petit peu la même trajectoire que la mienne, et ça m'encourageait beaucoup.
Bien sûr.
À partir de 1964, elle ne porte plus que des tenues féminines en public. C'est à cette époque qu'elle trouve son nom, Marie-France. Marie, comme sa mère, et France, pour le pays qui l'a accueillie. Marie fréquente les cabarets et les bistrots. C'est d'ailleurs au Club 65 qu'elle rencontre Coccinelle, la meneuse de revue du Carrousel de Paris, qui lui dira qu'elle est la nouvelle Coccinelle dans le vent. Superbe façon d'être adoubée par celle dont le parcours l'a fait tant rêver. La transformation de Marie-France est engagée.
Fallait qu'une étincelle pour m'allumer, hein.
Et cette étincelle est arrivée peu après sa majorité. En 1969, elle est engagée à l'Alcazar, l'un des cabarets les plus renommés. Sa personnification de Marilyn Monroe est saluée par la critique, et le tout Paris se presse pour la voir. Elle reste une vedette du musical L'Alcazar jusqu'en 1987, où elle devient même première meneuse de revue. Toutes ces années au cabaret la hisse en reine des nuits parisiennes, en incarnation absolue du glamour. De nombreux artistes la prennent pour modèle, notamment Pierre et Gilles, pour qui elle posera maintes fois par la suite. Catherine Ringer et Fred Chichin, les membres du groupe Les Rita Mitsuko, lui écrivent même des chansons. Ajoutant une nouvelle corde à son arc, elle poursuit sa carrière d'actrice au théâtre. Dans The Navel Night de Marguerite Duras, nouveau triomphe pour Marie-France. En 1971, 2 ans après les émeutes de Stonewall, le Front homosexuel d'action révolutionnaire, le FAR, est créé à Paris. Né d'un rapprochement entre féministes lesbiennes et activistes gays, je brûle les époques avec l'écoféminisme, le FAR donne rapidement une visibilité importante au combat queer, à leur volonté d'exister au grand jour sans répression.
Il suffisait d'avoir un peu de mascara sur les yeux quand on n'était pas une fille, et la police vous ramassait, ou une fille qui s'habille un peu en garçon, et c'était 10 heures au poste, hein. C'était terrible, hein.
Marie-France côtoie ces révolutionnaires, évolue avec elles et devient leur mascotte. Avec sa notoriété, le groupe subit moins d'oppression publique, mais les autorités trouvent outrageantes ces réunions et n'auront de cesse de les harceler jusqu'au démantèlement du mouvement 3 années plus tard. De ces années militantistes, Marie-France retiendra, entre autres, le pouvoir exutoire du rock. En 1981, elle sort son album 39 de fièvre, un savoureux mélange de rock underground et une tradition cabaretiste. 39 de fièvre est la traduction française faite par Boris Vian de la célèbre chanson Fever, popularisée par Peggy Lee aux États-Unis. À mon sens, c'est une superbe chanson qui fait l'écho de la sensualité fugitive à laquelle les personnes queer sont assujetties par la société à cette époque. J'y sens le conflit entre désir, peur et fatalité amoureuse due à l'apparition récente de ce virus nommé VIH. On l'écoute ensemble.
Jamais je ne pourrai te dire tout l'effet que tu me fais. Dès que tu me donnes tes lèvres, mon sang me mord et tout se met à tourner. 39 de fièvre, ça circule comme dans les marmites de l'enfer. 39 et je brûle, je sens flamber la fièvre dans mes nerfs. Il peut tomber des tonnes de neige, pas besoin de feu de bois. Dès que tu viens dans ma chambre, presque aussitôt je sens changer le climat. 39 de fièvre, ça circule comme dans les marmites de l'enfer. 39 et je brûle, je sens flamber la fièvre dans mes nerfs. Viens mon ange, ouvre tes ailes, il faut me laisser ton corps. Chaque fois qu'on dort ensemble, je sens la fièvre qui remonte encore. Lancelot connu Guenièvre, qui reçut un drôle de choc quand il lui dit d'un ton mièvre, dans le jargon que l'on causait à l'époque. 39 de fièvre, je le jure, Eros m'a percé de son dard. Et sous mon armure, je suis en train de cuire comme un homard. Chacun sur terre a la fièvre, et ça dure depuis longtemps. Ça remonte au jour où Ève a fait croquer la pomme au vieux père Adam. La morale, c'est que les filles, centigrades ou réaumures, c'est fait pour donner la fièvre. Et peu importe l'instrument de mesure, 39 de fièvre. Ça pétille et ça continue de monter. 40, ça grésille. À quelle jolie façon de brûler! À quelle jolie façon de brûler! Quelle jolie façon de brûler! À quelle jolie façon de brûler! À quelle jolie façon de brûler! Quelle jolie façon de brûler! Quelle jolie façon de brûler!
Les années 80. Ah là là. En tout cas, moi, j'adore cette chanson. Et vous, qu'est-ce que vous en pensez sur le plateau?
J'ai entendu tellement de choses, j'ai entendu le climat change, j'ai pensé encore aux échos féministes. J'ai entendu quelque chose qui suggère une carte blanche arthurienne.
Ah, tiens donc, Lancelot Conigonièvre. Et de votre côté, Ilophilias, peut-être un avis?
J'ai beaucoup aimé.
Ah ouais, bah écoute, je connaissais pas du tout. Merci pour cette découverte et je pense que ça part directement dans ma playlist.
Voilà, comme ça on fait des échanges de playlist et je continue sur le portrait de Marie-France. Marie-France traverse les années 80 en chanteuse incontournable du milieu queer parisien. Elle fait l'unanimité et sa notoriété ne fait que croître outre-Manche aussi. En 1993, c'est avec l'artiste brun ténébreux Marc Almond qu'elle chante la reprise « D'à quoi ça sert l'amour ?» d'Edith Piaf et Théo Sarapo. La collaboration entre nos deux artistes est si douce que Marc Almond lui écrit la chanson « Scheherazade » pour son futur album. C'est une ballade sensuelle aux accents maghrébins qui rappelle à Marie-France sa vie en Algérie. Elle dira à ce propos: pour Marc, c'est de l'exotisme. Moi, je suis né là-bas. J'imagine très bien Marilyn sursurant « Habibi » à un beau brin chéri. Cette identité mutine et séductrice de Marie-France se transpose dans chacun des nombreux albums qu'elle a sortis depuis lors. Entre la sortie d'une autobiographie intitulée « Elle était une fois » aux éditions de Noël, le rôle de jury au Festival international du film LGBT de Paris « Chéri Chéri » et l'obtention de son titre de chevalier dans l'Ordre des Arts et des Lettres, Marie-France est très occupée. En 2015, l'artiste monte sur les planches du théâtre Comédia pour le très attendu spectacle cabaret de Thierry Mugler, « Les Mugler Follies ». Pendant un an, de 4 à 6 soirs par semaine, Marie-France apparaît dans un numéro concocté spécialement pour elle. Elle y porte une splendide robe scintillante couleur chair avec des pendants de cristal qui oscillent et étincellent à chacun de ses déhanchements. Cette robe s'inspire d'une photographie ancienne de Marlène Dietrich et de l'une des créations de la collection automne-hiver 95-96, oui je regarde les défilés, de Thierry Mugler. Elle fut brodée directement sur le corps de Marie-France sous la tutelle de Mr. Pearl, le corsetier particulier de Dita Von Teese. Oui, cette robe est magnifique. Son passage sur scène s'appelle MMM. Une chanson de Marlène Dietrich, une seconde de Marilyn Monroe et une dernière de Marie-France. En interprétant ces trois chansons, Marie-France retrace son parcours d'imitatrice, comédienne et chanteuse originale. Originale, ça, il est certain qu'elle n'a jamais cessé de l'être. Lors de l'exposition « L'esprit français », Contre-culture 1969-1989, qui s'est tenue à la Maison Rouge, Marie-France tenait un rôle de choix. Au travers des affiches de ses concerts Rock Underground et de ses collaborations avec Pierre et Gilles ou encore des flyers pour ses concerts où elle pose en Marianne Trans prônant l'utilisation du préservatif en pleine crise du sida, l'exposition a retracé la carrière à la trajectoire atypique et les engagements de l'artiste. Son parcours singulier a de quoi faire rêver et inspirer des milliers de queers. Elle, qui fut une figure mythique du Paris nocturne et transgressif des années 70, a su se réinventer maintes fois en restant fidèle à elle-même.
J'ai choisi ma vie, j'ai choisi mon identité, j'ai tout fait par moi-même, je me suis faite. Marie-France, créa Marie-France.
Et quelle belle création. Mais voilà que la chronique s'achève. Mais ne soyez pas tristes, on finit ce portrait queer avec le dernier titre de Marie-France, sorti en 2021, « Paye pour moi ».
D'amour et de fraîche, voir si c'est dans la dèche ou bien dans la soie. Si t'aimes le bas de mon dos, c'est pas sur un escabeau qu'il faut que tu la sois. Paye pour moi sans l'oseille, pour moi je veux que tu dépenses toute ta paye pour moi. Voyage en seconde, j'ai rien de luxe. Ne sois pas trop économe et nous nous entendrons comme Castor et Pollux. Paye pour moi sans le seuil, pour moi je veux que tu dépenses toute ta paye pour moi. Toi qui me donnes du I love you, fends-toi plutôt d'un caillou, mais pas de mes tarifs. Fais pas les choses à moitié, va faire ton choix chez Cartier ou bien chez Van Cleef. Paye pour moi sans l'oseille, pour moi je veux que tu dépenses tout, ta paye pour moi. Tu commences à le comprendre, je suis le seul qu'il faut prendre par les sentiments. Si tu veux vraiment me toucher, en plein cœur pense à me coucher sur ton testament. Sur le seuil pour moi, même si je ne ferai pas pareil pour toi. Paye pour moi sur le seuil pour moi, je veux que tu dépenses toute ta paye pour moi.
Il est 19h29 et vous écoutez Queer Me Out.
Je prends.
Oui, je te passe le micro, Félix.
C'est parti. Salut. Aujourd'hui, dans le masculinomètre, je reprends un peu du service et je voulais vous parler de nos engins personnels de déplacement. Alors, si vous ne le savez pas encore, le masculinomètre, c'est la chronique qui t'explique comment, mais comment, les objets de ton quotidien traduisent un potentiel de masculinité positive ou toxique. On va donc voir ensemble comment on s'est approprié les engins de déplacement au fil du temps, et surtout, vous vous en doutez, selon les genres. On n'a pas beaucoup de temps, alors on va se concentrer sur le vélo et la voiture, parce que je pourrais vous parler de mobilité et de genre, mais surtout de mobilité pendant genre des heures, c'est un peu mon métier.
Ooh, another white boy with a podcast. Crypto, gym bro, another white boy with a podcast. Pronouns, hell no.
Non. Bon, j'arrête de parler de moi, tout de suite. Donc c'est parti. Alors déjà, d'après vous, petite question, laquelle de la voiture ou de la bicyclette est arrivée la première ? Bon, vous en doutez, si je pose la question, c'est qu'il y a un piège. Dans le langage courant, on parle déjà de voiture, véhiture, vecture au XIIe, XIIIe siècle en ancien français, pour désigner une caisse ou plateforme montée sur roue, tirée ou poussée par un être animé et servant au transport. Une caisse, quoi. Les termes bicycle, bicyclette, vélocipède arrivent quant à eux plutôt au 19e siècle en fait, pour désigner un appareil de locomotion formé d'un siège sur deux ou trois roues, mu par la pression des pieds sur le sol ou au moyen de pédales. Mais aussi, et c'est rigolo, c'est vraiment la définition, une sorte de voiture très rapide. Alors ça en dit long sur la performance des voitures de l'époque, et d'ailleurs j'ai envie de vous raconter une petite anecdote. Il y a eu une loi en Angleterre pour obliger les véhicules à vapeur à être précédés par un pélo à pied, avec un drapeau, pas un vélo, bien un pélo, à pied, avec un drapeau. puisque de toute façon leur vitesse était limitée à 10 km/h, ce qui représentait la pointe de la technologie pour l'époque. Hein. Les premières voitures ont eu sur du 4 km/h.
Très rapide.
C'est ça. Et c'est le monsieur devant qui parle en courant. Mais bon, trêve de bavardage. En l'honneur de cette primeur historique, je vous propose qu'on commence avec la voiture. L'histoire de la voiture, c'est en grande partie l'histoire d'une diffusion sociale massive. D'abord au sein de la noblesse, chez les barons et les ducs, puis au XXe siècle dans la société tout entière ou quasi, avec les guerres, la reconstruction, la relance de l'industrie, les pics pétroliers, tout ça. En France aujourd'hui, en 2018 au moins, plus de 8 ménages sur 10 possèdent une voiture et 1 sur 3 a même au moins 2 voitures. 1 sur 3, ça fait même la moitié des 8 sur 10. Alors je ne sais pas ce qui est le plus clair à dire, mais vous avez compris.
De toute façon, je ne suis pas bon en maths. Hein.
Moi non plus.
Quasi tout le monde a une voiture, quoi. Et si vous êtes toujours avec moi sur les maths, ça fait 30 000 fois plus de voitures en circulation qu'en 1900 et qui parcourent beaucoup plus de kilomètres. Mais cette diffusion, elle s'est faite ni dans la même temporalité, ni pour les mêmes motifs chez les hommes et chez les femmes, et c'est ce qu'on va regarder tout de suite. Déjà, quand on prend les courbes de diffusion du permis de conduire, on observe un retard de près de 25 ans dans la diffusion entre les femmes et les hommes. Alors que les deux tiers des hommes détenaient le permis de conduire dès 1967, il faudra attendre 1993 pour que les deux tiers des femmes l'obtiennent. En 1967 d'ailleurs, c'était à peine un quart des femmes qui avaient leur permis et seulement une sur 50 qui se déclarait conductrice régulière d'un véhicule. Et on ose appeler ça le papier rose.
Oui, et ?
Bah, c'est pas un... Ouais, c'est peut-être plus une taxe rose sur la vie, quoi. Plus sérieusement, une étude de 2014 qu'on doit à Johan Demoli a également montré que les hommes et les femmes ne prennent pas la voiture pour les mêmes motifs. Toutes choses égales par ailleurs, c'est-à-dire à revenus, âge, catégorie socio-professionnelle, etc., à peu près équivalent, les hommes conduisent environ 3000 km de plus par an que les femmes. À vol d'oiseau, c'est l'équivalent d'un aller-retour Rennes-Budapest, je sais pas si vous mesurez. Alors vous vous dites peut-être, waouh, quel dévouement, quelle dévotion, quel sens du sacrifice, se déplacer autant. Sûrement toutes ces choses-là, mais en allant plus finement dans l'étude des déplacements, on se rend compte que les hommes font surtout des déplacements que je qualifierais pour aller vite d'égoïstes, tandis que les femmes vont plus au travail, s'occuper des enfants, faire les courses.
What a surprise!
Oh, wow. Et en plus, souvent, quand il n'y a qu'une voiture pour un ménage, hétéro, ce ne sont pas elles qui la prennent. Autre fait marquant, les hommes se déplacent plus en général, mais les femmes qui travaillent plus loin de leur domicile se déplacent plus, tandis que les hommes qui travaillent plus loin de leur domicile ont tendance à rouler moins au total. Je vous laisserai réécrire ça tranquillement et l'interpréter comme vous voulez, car le temps file. Mais à la fin, la conclusion, ça devrait être quelque chose du style « Mais qu'est-ce qu'il allait faire à Budapest ?» Il n'allait certainement pas travailler. Au-delà d'une volonté d'émancipation, surtout exprimée par des précurseuses qui étaient rares et majoritairement issues des classes les plus aisées, les femmes semblent s'être appropriées l'automobile comme l'emploi, en fait plutôt par nécessité économique et familiale. À l'inverse, aux hommes, la voiture a apporté les quatre promesses de la pub du coupé auto bleu des années 50, vous le connaissez forcément. Élégance, luxe, confort, distinction. Ça fait beaucoup de choses qui n'ont rien à voir avec le besoin de se déplacer, je trouve. Mais bref. Mais ça nous offre une transition assez bien trouvée, parce que si vous reprenez élégance, luxe, confort, distinction, que vous supprimez un paquet de lettres et que vous en rajoutez une, vous obtenez...
Ouais. Non, je sais pas.
Si, vélo.
Vélo. Ah mais c'était vélo. Ah,
ça tombe à point nommé. Le vélo est connu pour être un sport excellent pour la santé et accrochez-vous à vos selles, mais pas trop. Selon des chercheurs américains de l'université de San Francisco, les femmes qui pratiquent le vélo de manière intensive ont une meilleure activité sexuelle que les autres. En tout cas, toujours en 1967, on en parle un peu comme d'un vibromasseur.
C'est un retour pour moi de 50 ans en arrière. Vous comprenez, la bicyclette, c'est fini.
Moi, je suis tout à fait pour. C'est un instrument très très pratique. Je pense que pour une femme, c'est l'idéal.
Je vois pas ce qui pourrait être plus idéal. Et la diffusion du vélo dans la société va être peu ou prou la même que celle de la voiture. D'abord réservée aux classes fortunées, où il sert d'outil d'émancipation féminine, il se diffuse ensuite plus massivement dans la classe ouvrière, pour laquelle il offre une alternative meilleur marché à l'automobile. Ensuite, l'essor de la publicité, le grand développement de l'industrie de l'automobile font oublier un temps le vélo, et il est remis au goût du jour plus récemment, notamment dans le contexte de la crise climatique qui fait voir d'un assez mauvais œil le fait que 3 déplacements de moins de 2 km sur 10 se soient faits en voiture et près de la moitié des déplacements de moins de 5 km. 5 km, ça se fait au plus en un quart d'heure à vélo, et je parle même pas des 2 km. Et en plus, en ville, souvent en heure de pointe, on va même plus vite en vélo qu'en voiture. Mais ce n'est pas tout. Aujourd'hui, si on a tendance à présenter le vélo comme un truc de bobo ou à défaut de babos, on cache soigneusement le fait que la pratique du vélo par les femmes a été soigneusement entravée depuis au moins un siècle et demi par les hommes et les personnes qui avaient le pouvoir de développer cette pratique. Qui n'a pas déjà entendu un documentaire qui commençait par « En France, en 2018, un cycliste sur quatre est une cycliste. Et elles sont deux fois moins nombreuses la nuit et partant de pluie. »
Non, vraiment pas.
Non.
Ah ouais, bon, faut peut-être que je me trouve d'autres centres d'intérêt.
Is it just me? Maybe it's just me.
Bon, entre les craintes liées à la perte de la virginité des femmes et à la perte de la virilité des hommes quand les femmes s'approprient leur corps et l'espace, on a tenté d'éloigner les femmes du vélo autant que possible. Vous avez peut-être plutôt entendu alors une polémique l'an dernier à Lyon quand un élu a affirmé sa volonté de proposer des pistes cyclables non genrées et inclusives et que l'internet mondial, que dis-je, la droite, s'est insurgé en disant globalement et pourquoi pas des pistes cyclables apaisées, bienveillantes ou woke?
Bah pourquoi pas en vrai,
oui, pourquoi
bah,
pas.
Ouais.
C'est alors, l'idée, non?
Bah moi j'aimerais bien, et je me suis tapé toutes ces vidéos, je me suis dit peut-être que j'aurais une pépite à vous sortir, à vous proposer pour qu'on entende quel était ce propos. Mm-hmm. Mais non, moi je suis d'accord, on a besoin de toutes ces choses-là en fait. Mieux éclairer la nuit, rendre prioritaire avec de la signalisation, élargir pour faciliter la circulation avec des enfants ou des vélos cargo, organiser des ateliers d'autonomisation dans l'entretien et la réparation des vélos, et faire connaître la mise en place de toutes ces actions, des fois organiser des parades ou des balades à vélo réservées aux femmes ou aux personnes minoritaires, ce sont des choses qui permettent de se réapproprier l'espace et la pratique cyclable. Et en fait, quand on y regarde de plus près, ce sont plus ou moins les mêmes raisons qu'on a mobilisées pour éloigner les femmes du vélo et de la voiture, mais surtout pour leur éviter, les priver de cette émancipation économique, culturelle et politique qui leur pouvait permettre de trouver. Donc les arguments du type « oui mais la vitesse c'est le danger, c'est réservé aux hommes, oh, toute cette mécanique c'est quand même bien compliqué, mais dehors c'est pas sûr ». Et surtout…
C'est complètement inesthétique. Il y a des sports qui sont masculins, il y a des sports qui sont féminins, voir une femme danser pour moi c'est très joli, voir une femme jouer au football…
C'est charmant.
Non mais c'est vrai, je le reconnais. Voir une femme danser c'est très joli, voir une femme jouer au football c'est moche, et je le dis.
Tiens, mais pourquoi
voir une femme sur un vélo c'est moche, c'est mon opinion, ça n'engage que moi.
Alors on va pas le citer pour lui donner de la visibilité ou quoi, mais on est sur un des premiers champions olympiques de longue date de vélo qui parlait à la première femme qui était vraiment… pratiquante et connue mondialement de vélo.
Encore et... un homme qui donne un avis non sollicité à une femme. C'est fou ça.
Tout à fait. Sur un plateau. Merci. Heureusement que c'est enregistré. Mais au contraire, en plus, si les femmes sont éloignées du vélo, de la voiture, de la mobilité, avoir une voiture, c'est parfois le but dans la vie de jeunes hommes. Je ne sais pas si vous en connaissez. Mais il y en a qui pensent que pour être le bon père de famille dont le travail donc, auquel il va accéder en voiture et qui va permettre de soutenir toute la maisonnée, les enfants, de les nourrir, de leur offrir un toit, etc. Ça va être le pilier de leur vie, ça va être leur objectif à atteindre. Et c'est énormément de pression, en fait, simplement, par rapport à la conduite, par rapport au sens de l'orientation, à la connaissance de la mécanique automobile. Moi, des fois, je me mets une pression de dingue.
Je
vais aller voir à comment ça ressemble, à quoi ça sert, un moteur à quatre temps, etc. Mais pourquoi?
Je ne sais même pas ouvrir un capot.
J'ai pas de voiture. Mais... enfin, aujourd'hui, on a identifié hein, tous les enjeux de précarité, d'insertion professionnelle, d'accès à l'emploi et de déconstruction des préjugés qui sont liés aux pratiques de mobilité. Mais je pense qu'on ne pourra jamais assez remercier notre imaginaire collectif qui nous répète et répète incessamment toutes ces choses-là et fait perdurer en fait ces idées bien malgré nous dans nos têtes, quoi. Bon, là, ça fait un moment que je parle et comme d'habitude, j'ai du mal à me décider pour le masculinomètre. C'est pour ça que je fais durer. Mm-hmm. Mais entre les gros freins et les gros potentiels du vélo, c'est vrai que j'ai du mal à choisir. Et pareil pour la voiture, parce que la voiture, ça a quand même été, notamment dans certains territoires, un outil d'émancipation. Et c'est, on peut pas non plus balayer la voiture comme ça d'un geste. Et donc j'ai utilisé une petite technique un peu simplette, mais qui me plaît bien pour cette édition du Masculinomètre. Je sais pas vous, mais moi j'entends bi dans automobile, bicyclette, journée internationale de la visibilité lesbienne. Une semaine de retard, je me dis que personne ne s'en rendra compte dans 5 ans. Donc je vais mettre une note de bi, voilà, B.
De bi.
Et ce sera
excellent.
Tout. Ce sera tout pour moi. Merci. Et ce que je voulais vous poser surtout comme question, après, c'était plus, voilà, vous, vos expériences, vous en êtes où? Quelle est votre expérience vis-à-vis de ces modes de déplacement? Est-ce que vous avez ressenti une pression à les pratiquer, à ne pas les pratiquer? Le vélo, la voiture, on en dit quoi?
Full piéton de ce côté-ci, je ne vais pas avoir un avis très...
Ah, je suis désolé, mais full automobiliste.
On a droit.
Moi, j'ai toujours vécu en ville, donc j'ai toujours utilisé les transports en commun. Par contre, j'ai une pression de la part de mes proches beaucoup à passer le permis de conduire. Donc ouais. Voilà.
Oui. Mais justement, si pour ces raisons d'émancipation, par exemple.
Oui, c'est plutôt c'est émancipation aussi. Bah, c'est en termes de pratique, quoi, pour pouvoir me déplacer plus loin aussi seul. Et j'ai aussi du mal à être dans les transports en commun à cause de difficultés sensorielles, et j'ai du mal à tenir debout longtemps aussi, donc j'ai aussi ce côté-là qui rentre en ligne de compte, quoi.
C'est vrai que si on rajoute la marche des transports en commun, moi, on n'arrête plus.
Moi, j'ai grandi à la campagne, du coup, passer le permis, c'était un peu indispensable à un moment.
Et je te rejoins, Kevin, parce que c'est mon cas
oui,
aussi.
Voilà, c'est pour ça que j'ai la voiture. Se désisoler.
Je t'ai reconnu. Pour ton témoignage.
Eh bien, il est 19h42. Vous écoutez Queer Me Out et on passe tout de suite la parole à Phileas.
Un peu plus tôt, Elios nous a présenté la série Scam et a mentionné le nom de Soan Pag. Soan Pag est le comédien qui joue Max dans cette même série. Il se trouve que Soan est aussi chanteur. Il est originaire de Toulouse et tire ses influences de la pop et du slam, brodant ainsi son propre univers autour de textes poétiques et engagés. Soan est très investi sur les questions transgenres, étant lui-même concerné, il en parle au travers des projets auxquels il participe, que cela soit en tant que comédien au cinéma, à la télé ou en tant que comédien de doublage, par exemple pour le jeu vidéo Tell Me Why, que je vous recommande, il est vraiment génial, ou dans ses chansons. C'est le cas de son tout premier single, Dorian. Dans ce titre sorti en 2020, il raconte l'histoire de Dorian, un jeune homme trans. Je vous invite à visionner le clip de cette chanson si vous le désirez, je l'ai trouvé magnifique et très fort. Sur ce, je vous souhaite une très bonne écoute.
C'est pas grave, et même ça, c'est pas vrai, mais on trouvera un endroit pour être nous-mêmes. Dorian a 16 ans, et il sait très bien qui il est. Il n'a pas besoin de se perdre pour se trouver. Dorian a 16 ans, et il aime ses hanches. Face à son genre, ce sont les autres qui flanchent. Il n'a aucune preuve à fournir, c'est pas un problème, donc range tes mots. Il n'y a rien à subir, juste accepter que t'avais faux. Il n'y a rien pour attiser ta haine, c'est pas un problème, donc range tes coups. Faudrait peut-être que t'apprennes à l'écouter. C'est tout. C'est pas grave, et même ça, c'est pas vrai, mais on trouvera un endroit pour être nous-mêmes. Dorian a 20 ans, et il sait toujours qui il est. Il s'est épuisé à répéter que c'était lui, que c'était vrai. Dorian a 20 ans, et il aime ses seins. Il aimerait un jour pouvoir être ensemble. Mais ce qu'il voudrait, c'est sortir tranquille, ne plus avoir peur. Parce qu'en de sa bulle, pour les gens comme lui, c'est l'horreur. À 20 ans, il en a trop vu, il voudrait juste être traité comme les autres. Mais chaque insulte est celle de trop. À chaque insulte, il se vautre. C'est pas grave, et même ça, c'est pas vrai, mais on trouvera un endroit pour être nous-mêmes. Nous-mêmes. Dorian a 25 ans et n'a pas oublié qui il est. Il a gardé autour de lui ce qu'il soutenait. Dorian a 25 ans et il aime ses formes. Chaque insulte est emportée, tant pis pour les normes. Dorian est un homme. Dorian est un père. Il a porté son enfant et pendant 9 mois les oiseaux chantèrent. Il n'a plus peur, entouré par l'amour des siens. Il laisse s'envoler la douleur. La vie répare, la vie retient. C'est pas grave, et même ça, c'est pas vrai, mais
on trouvera un endroit pour être nous-mêmes, nous-mêmes. C'est pas grave, et même ça, c'est pas vrai, mais on trouvera un endroit pour être nous-mêmes, nous-mêmes.
Ça vous a plu ?
Grave,
c'est trop bien le clip.
Mais génial. Pour en terminer avec ma sélection du jour, j'ai le plaisir de vous parler de Holokid, qui est un artiste francophone, encore une fois. C'est un de mes artistes préférés. Ses musiques percutent avec des paroles assaisonnées au punchline et saupoudrées de sincérité. Sa biographie sur TikTok, c'est « Ton pote transqueer qui fait du son ». Il décrit sa musique comme, je cite, « inclassable ». Elle mixe différents genres pour représenter les divers sujets qu'il aborde dans toute leur complexité. Les sujets qu'elle traite régulièrement dans ses chansons sont la communauté LGBTQIA+, le féminisme et la santé mentale. Son dernier single, Keep Working, a été teasé sur les réseaux sociaux et nous pouvons enfin l'écouter en entier depuis le 14 avril sur toutes les plateformes. C'est un son qui parle de transidentité, qui clash, qui vanne la transphobie et qui est écrit d'une très belle plume. Nous allons maintenant vous laisser profiter de cette petite pépite.
J'ai du gloss sur les lèvres, mascara sur la moustache. J'fais jamais grève de style, non, et ça les fâche. C'est pas bon de vanter, mais faut avouer que dans le quartier, j'suis le seul mec qui n'a pas peur d'être BG. J'porte des survêtes cause à like et de la dentelle sous mes Nike. Et j'ai l'ego si gonflé que mon binder va craquer. Les gens me fixent comme des snipers, du coup j'la joue stripper. Traite-moi de fou, I'll keep walking. Walk, 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 walking. Walk, 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 walking. I'll keep walking. C'est un truc plus virulent que la débilité. Elle est fragile pour bien plus d'un, suffit de leur caresser la main. Imagine si on leur rappelle que la masculinité c'est un mot féminin. J'ai pas les mots tellement j'suis beau en talons hauts. Tu traites de loser mais la roseur finit toujours par oser. T'es pas confiant mais t'es marrant, mal dominant. Qui a peur de mon dressing, j'suis pas comme toi même sans jogging. I keep walking. Walk, 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 walking. Walk, 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 walking. I keep walking. De folle de PDO, toi je sens que tu vas me briser les ovaires frérot. Faut que tu changes tes amis poto, ça se voit que t'as du mal à t'aimer toi. Mais m'amène c'est chaud, laisse-moi te tenir à peu près ce langage. Rien à foutre, car moi j'essaye pas toutes. Crache pas ton somme sur ma route, bien trop gay, bien trop cute. Bois mes règles, c'est ton casse-croûte. Et si t'as peur de mon swing, t'inquiète, j'ai toute une communauté qui va t'apprendre à keep walking. Walk, 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 walking. Walk, 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 walking. I keep walking. Je voulais vous ressembler, messieurs, je vais vous rappeler les termes. Je ne veux même pas de M sur mes papiers. Tant pis si ça fâche le système. I keep walking.
Et voilà qu'il est 19h49 et que c'est le moment de l'agenda queer du mois de mai. Ce week-end, il y aura le Tigre 2023, le tournoi international LGBT+, hétéro-friendly de Rennes. La saison des marches des fiertés commence. Et oui, ça commence en mai parce que, bonne nouvelle, il y en a de plus en plus et pas seulement dans les métropoles. Vu qu'il n'y a pas assez de week-ends en juin pour toutes les caser, ça commence dans l'Ouest dès la semaine prochaine.
Yes, samedi, donc pas samedi déjà, samedi d'après, samedi en 8, ce sera la deuxième Pride de Saint-Brieuc.
Et ce sera le 13 mai. D'ailleurs, le 13 mai, il y a également une Pride à Angers. C'est notre charmante amie Ladies Ghost qui ouvre la marche avec Chlamydia et la House of Hulala. Il y a tout un programme pour vous faire vivre une Pride incroyable. Toujours le 13 mai, aura lieu la marche Existence Inter à Paris. La marche des personnes trans et intersexes et de celles et ceux qui les soutiennent. Son mot d'ordre, mobiliser contre la loi Darmanin.
Ouh hey.
Et voilà que c'est malheureusement la fin de cette émission. Mais vous pouvez écouter cette émission et toutes les précédentes sur Spotify et toutes les autres plateformes. On remercie Kevin à la régie.
Merci Kevin.
Merci Kevin.
Merci Kevin.
Bisous.
Et on se donne rendez-vous pour notre prochaine émission, le jeudi 18 mai, qui sera une carte blanche à la lame affûtée. Je n'en dis pas plus. Prenez soin de vous et surtout, soyez bienveillants. Bisous.
Bisous.
Bisous. Bisous.